Mi bien marbre au milieu estropé.
Voilà, c'est très difficile.
Bon, alors je vais simplement vous dire deux petites connaissances préalables qu'il faut avoir et tout va s'ouvrir. Il y a une différence entre Olamazé et Olamaba. Et il y a une différence entre le temps de la prière, toute la soudia, le sujet c'est la prière. Hein? Le temps de la prière s'appelle Haye Shara. Vous allez prendre ces deux expressions et les prendre en travail. Haye Shara. Haye Shara, ça veut dire la vie de l'heure présente, dans ce monde-ci. Dans la prière, je m'occupe de mon sort dans ce monde-ci. Je demande Haye Shara, la vie de mon heure présente. Ça, c'est Haye Shara, ça correspond à Tfila. Et puis, il y a l'expression Haye Olam, la vie de l'éternité, la vie du monde à venir, qui est la Torah, qui est donnée par la vie. C'est-à-dire, quand on étudie la Torah, alors on est dans Haye Olam. Quand on prie, on est dans Haye Shara. C'est clair? Au point qu'il y a une discussion dans la Gemara qui nous dépasse beaucoup le niveau et la discussion, mais je vais la citer. Celui dont toute la vie c'est d'étudier la Torah, est-ce qu'il doit s'interrompre pour faire la prière? Vous connaissez cette discussion? La Gemara répond, celui qui est dans ce cas-là, Torah Tam ou Manutam, celui qui vraiment étudie la Torah, okay, n'a pas à s'interrompre pour faire la prière. Il est dans Olam Haba, on va le tirer pour entrer dans Olam Hazeh. Okay. Et on cite par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai. Okay. C'est-à-dire, quand on étudie comme Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, on est dans ça. Et quelqu'un qui est, disons, même 40e année de Yeshiva, il a juste commencé à essayer de lire. Et il n'est pas encore dans la Torah, vraiment. Mais de lui, il ne s'agit pas. C'est clair. Okay. Alors, je vais relire d'après ces deux coordonnées. Olam Hazeh, ça veut dire pendant la tefila. Et voilà ce qu'on a dit de Rish Lakish. On a dit de Rish Lakish que Miyamar, aucun des jours de sa vie, Milastropi bar Olam Hazeh, Michishamar, mi Rabbi Yochanan Rabbe. Et après, j'expliquerai la deuxième partie, depuis qu'il a entendu de la bouche de Rabbi Yochanan Rabbe. Ça veut dire que depuis qu'il a entendu cet enseignement, jamais dans sa prière, il n'était que en simcha. C'est-à-dire, milestropi, dans la prière. Dans l'étude de la Torah, oui, mais pas dans la tefila. Vous voyez, c'est clair? C'est-à-dire, dans l'étude de la Torah, on peut être totalement des simcha. Parce qu'on est dans le monde cohérent, de Olam Haba, où là-bas, il n'y aura que... Ah, le Olam là-bas. Où là-bas, il n'y aura que simcha. Vous voyez, c'est clair? La dimension de Ira, ça vient dans la masse. Vous avez compris? On peut ajouter aux formules de tout à l'heure de. Je crois que je l'ai dit. Simra, parce qu'on a la maba, Ira, parce qu'on a la maba. Vous voyez? Alors, donc la première formule, c'est clair. Elle, c'est clair. Elle s'apostrophe. C'est-à-dire que. Depuis qu'il a entendu cet enseignement, alors, et vous voyez comment c'est relié au sujet. Le sujet, c'est le sujet de la tefila. Alors, dans sa prière, alors voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Et maintenant, on va reprendre un peu les deux questions que vous avez posées tout à l'heure. Peut-être que vous les avez oubliées, mais ça va vous les rappeler. Si vous voyez, dans la Yiddishkeit, comme j'ai dit, un vie juif, quand un juif prie, il pleure. Quand il étudie, il rit. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, la prière, c'est l'expérience de Olam Hazeh. Okay? Alors que la Torah, c'est l'expérience de Olam Haba. Il y a une seule circonstance dans l'étude de la Torah, on a le droit de prier, c'est même un devoir. C'est quand?
Le schéma.
Non, l'étude de la Torah, je ne parle pas du schéma. Tu as vu quelqu'un prier pendant le schéma? Non, le schéma, c'est des prières, c'est pas la Torah. Dans l'étude de la Torah, on est en joie. Simcha shel Torah. Et d'ailleurs, ce sera le signe que vous comprendrez que vous commencez à étudier. C'est quand ça vous donnera de la joie. Et que ça. Mais il y a une circonstance dans l'étude de la Torah où on a le droit de pleurer. C'est quand ? Raisonnez un peu.
De la destruction du temple.
Non, de la Torah, je ne parle pas de la... De la
oui.
Je vais donner un exemple. À Tisha B'Av, le jour de la commémoration, c'est interdit d'étudier la Torah. Parce que c'est un jour de deuil. Et que étudier la Torah, ça donne la joie.
Même plus pour recevoir la Torah.
Étudier, Habibi. C'est ce qu'on cite pour Tisha B'Av. On a le droit d'étudier, et encore l'après-midi seulement, pas le matin, que le livre de Job, ou les Lamentations de Jérémie. Et même, il y a des gens qui n'étudient pas, même pas ça, parce que même étudier le livre de Job, on peut avoir de la joie d'étudier. Il faut le faire, hein, étudier le livre de Job, avoir de la joie. Mais ça existe. C'est tout simple, tout simple. On étudie la Torah et on ne comprend pas, alors il faut pleurer. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Non, mais c'est écrit dans la Gemara. Quelqu'un qui étudie la Torah et ne comprend pas, alors il faut pleurer pour qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il comprenne. Essayez, ça marche.
Quel est le lien conducteur alors à partir de cet enseignement et la joie prônée par le mouvement racinique?
Justement, je vais revenir au moment racinique. Rappelle-moi quand je vais finir. Je reviendrai là-dessus. Très bien. Je voulais vous en parler tout à l'heure, mais il y a eu la psaka, ça m'a bien fait me poser la question. Encore oui.
Parce qu'on ne comprend pas le droit.
Qu'est-ce que vous en parlez pas? Qu'est-ce qui vous arrive?
Dans les mots ici, quand il dit les
malais,
il par exemple, remplir sa bouche de rire. C'est-à-dire, le sens, le rire doit prendre un sens plein dans la bouche. C'est-à-dire, c'est une expression extérieure du rire. Parce qu'il y a dans la simcha, par exemple, quand on étudie la. Moi, il me semble qu'ici, il y a une différence au niveau du vocabulaire. Le rire. Il y a des gens qui rient, par exemple, un rire...
Nerveux, hystérique.
Voilà, il y a un rire qui sonne. Non, mais il y a des gens qui rient pour... Alors qu'au fond, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'expression et le fond.
Non, on parle pas
et puis il y a la simcha qui ne s'extériorise même pas des fois.
Alors, on ne parle pas de ça. On parle effectivement d'un temps de rire. Quand on parle à Rish Lakish, il n'avait pas un rire hystérique.
Non,
je veux dire... On parle d'un rire sain qui exprime la joie et que la joie. Alors, je vous ai terminé l'explication d'abord. Oui, c'est ça, suivez bien. C'est ça que Rish Lakish a entendu de la bouche de son maître. Il l'entendait quand son maître priait et quand son maître étudiait. C'est ça qu'il a entendu, expérimentalement. Pas cet enseignement quand il le lui a dit, mais ce fait que quand il priait, qu'il était dans Olam Hazeh, il n'était pas que en joie. Mais que quand il étudiait, qu'il était dans Olam Haba, là où il était que l'ange. Michi Shama, mi Rabbi Yochanan Rabbi. Depuis qu'il a entendu cette chose-là, le fait que de la voix de prière et de la voix d'étude. Ça y est, c'est clair. Donc la difficulté a été résolue. Je voudrais simplement un peu actualiser, puis je reviendrai, on terminera là-dessus, le mouvement chassidique et le mitnagdim. C'est-à-dire, voilà, tout se passe comme si pendant ces 2000 ans, on n'avait pas le droit de mettre du rire dans la prière. Effectivement, pendant 2000 ans, ça, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je t'ai dit la belle ouverture. Un juif qui prie, c'est le mur des lamentations. Et puis, alors que dans la Torah, on était totalement en joie. Et ça, c'est vrai, dans n'importe quel yeshiva normal. On voyait des enfants étudier la Torah, ils avaient la joie sur la tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'yeshivot, c'est pas comme ça. C'est que c'est pas des yeshivot normales. Comment on peut étudier la Torah et être triste? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, on va essayer de compléter ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tout se passe comme si, effectivement, un petit peu, on peut mettre de la joie dans la prière. Déjà, un peu, ça commence. Et regardez ce qui se passe au mur. Quand c'est la première fois depuis les siècles qu'il y a ces rondes de jeunes gens qui dansent, et qui rient, et qui chantent dehors de côté de la Maharavi, qui était vraiment le mur où on allait pleurer. Hein. On ne l'a jamais appelé en hébreu le mur des pleurs. Ça, c'était en français. On l'a toujours appelé le côté de la Maharavi. Hein. Mais. Je vais vous faire une blague, mais c'est trop. Je crois à la fois. Vous me rappellerez à pourri. Yeah. J'ose pas. Alors, hein? Non. Vous me rappellerez la prière que Adam Arichon a fait au côté de la Maharavi. Ça, je me rappellerai. Et alors, là. C'est-à-dire, il y a déjà la joie qui s'introduit dans la prière. On s'éclaire. Encore une fois, vous êtes handicapé pour ça parce que vous êtes né dans la génération où c'est déjà arrivé. Nous, on a vu la transition. On a commencé à mettre de la joie dans la prière. Alors, ça veut dire que corollairement, on va commencer à mettre un peu de crainte dans l'étude de la Torah. Pourquoi ? Qui va, oui, mais pourquoi ? Et c'est vrai. Il va commencer à y avoir un peu de terreur dans l'étude de la Torah. Je ne parle pas de tristesse, okay, mais de ira. Okay. Vous voyez ce qui se passait là c'est ce qu'on nous a dit dans tous les maasim. Dans la tefila, il faut mettre l'accent sur ira, okay, parce que c'est olamazé. Mais dans la Torah, c'est que si. Voilà la différence. Okay. Alors si je vous dis que déjà maintenant dans la tefila, on peut mettre un petit peu de simcha. C'est le verset Azimale Sropinum. On commence. Il dit la Shemla Sotimele. Pourquoi il faudra qu'on mette un peu de crainte dans l'étude de la Torah ? Je pense que vous pouvez donner raisonner.
C'est une question de responsabilité ?
Oui, par rapport à quoi ? Très bien, très bien.
C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on étudiait la Torah et puis on n'arrivait pas à s'accomplir. Maintenant qu'on s'accomplit, on a la responsabilité.
Maintenant, ça devient sérieux. Voilà. C'est-à-dire pendant 2 ans. Pendant 2000 ans, on s'est préparé à étudier la Torah. Maintenant, ça va devenir sérieux. Pourquoi ?
C'est
élargi. Yamata Mashiach, pas trop pressé. Hein. Yamata Mashiach, pourquoi ? Dans le contexte.
Avec la terre,
Non, ça, tu as encore ce qu'il a dit.
C'est le moment où les goyim vont se reconnaître.
Voilà. Les ancêtres talmudistes. Très, très bien. Tu as mangé du poisson talmudique. Voilà, c'est très bien. Tu as trouvé la réponse. C'est effectivement, les goïms ont commencé à dire Igdil Hashem, la Sotimele, dites-nous un peu qu'est-ce qu'il y a dans votre Torah. Oui. Alors là, ça va devenir sérieux. Est-ce que c'est clair? Mais que l'inquiétude va entrer dans l'étude de la Torah parce que, responsabilité, comme tu as dit, parce que ça va devenir sérieux. Et il va plus s'agir de s'enfermer dans une yeshiva pour répéter 40 ans les mêmes choses, okay, et se préparer. Il va s'agir maintenant de dire la Torah. Oui, le contrat. C'est très bien. Bon. Eh bien, on va s'arrêter pour ce soir. Alors, je vous demandais vraiment de remettre en place. Hein? Ah oui, merci. Je vais vous faire comprendre comment on joue cette compensation des vertus. Je commence par le mouvement racine. La consigne qui est donnée au mouvement chassidique, c'est d'intégrer la joie dans la vie. Pourquoi ? Parce que la situation existentielle du milieu chasside était une situation d'angoisse. C'est-à-dire, dans leur réalité, ils étaient dans la crainte. Quand vous étudierez ce qu'a été le milieu sociologique des chassides, coupé de tout. De ces milieux de juifs, des ghettos, les plus malheureux, et coupé de tout, que a été donné le message de la chassidique. C'est à eux qu'a été donnée la consigne, soyez dans la joie. Est-ce que c'est clair ? Alors que les mitnagdim, c'est l'inverse. Le moussard, la morale des mitnagdim, c'est la ira. Je ne vous souhaite pas d'étudier dans ces fidotes, parce que c'est terrible. On est écrasé par le moussard. Pourquoi ? Parce que la tendance naturelle de l'homme, de ces milieux, est la hypocrite, est la dérision. Si j'étais pas tenu par ce moussard de la ira, il serait pire que des goyim. Voyez à peu près le problème. C'est-à-dire la consigne vient en complémentarité de ce qu'est la tendance sociologique, anthropologique. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, vous comprenez donc comment est la complémentarité des valeurs. L'objectif, c'est d'arriver au même idéal de Torah, Simcha Veira. Mais comme le point de départ de la prise de conscience profonde est opposé, la consigne est opposée. Le chassid, avant de recevoir la Torah par la chassidoute, c'était le juif qui n'avait rien. Et il était dans l'angoisse existentielle totale. C'est dans ce milieu-là que le Baal Shem Tov a fait la révolution chassidique, c'est-à-dire c'était des milieux qui étaient coupés de toute joie de Torah que pouvait avoir l'aristocratie juive de ce temps-là, qui eux étudiaient, qui eux pratiquaient, qui eux étaient bourgeois, qui eux, etc., etc., qui avaient la vie. Eux, ça c'était le milieu rural et persécuté et coupé de toute culture juive générale. Dans ce milieu-là, la Torah est arrivée à travers la Sifra. Alors dans le milieu mitnaged, c'est le milieu intellectualiste, c'est le milieu de la communauté juive digne, officielle, etc., qui, si elle n'était pas tenue par une loi de Moussard, on les trouverait aux Champs-Élysées. D'ailleurs, on les trouve quand même. Et ouais, après,
autrement dit, la controverse entre Mitnagdim et la Sifra n'avait pas de sens.
Elle avait un sens anthropologique profond. Ça a été une querelle de deux classes sociales, de deux milieux. C'est sûr.
Mais elle n'avait pas de sens sur le plan du projet, à savoir qu'il fallait faire une compensation pour les uns pour les autres, oui, en fonction de leur caractère.
Oui, mais on ne l'a su qu'après. Aujourd'hui, cette querelle, elle n'existe plus. Ça a été une grande querelle. On s'est entrégorgé entre Hassidim et Mitnagdim, il faut le savoir. On se dénonçait au goyim, on se dénonçait à la police. Ça a été terrible. Maintenant, c'était une grande querelle. Maintenant, c'est fini. C'est devenu, comment on dit ça, folklorique. La querelle entre Hassidim. On n'a aucune idée à quel point d'authentiques descendants de Mitnagdim pratiquent les rites Hassid, ils ne se rendent pas compte. C'est passé chez eux. Et comment d'authentiques descendants de Hassidim sont devenus des Talmidei Chachamim. Quand vous étudierez l'histoire de ces sociétés-là, vous verrez que la principale accusation des rabbins Mitnagdim contre la Chassidoute, il reste un peu de ça. C'est que on mettait pas l'accent sur l'étude. On priait beaucoup plus qu'on étudiait, on chantait des heures, et qu'est-ce qui reste comme temps d'étude, etc. Et il y avait beaucoup d'ignorance, mais beaucoup de Chassidoute, de joie, etc. Aujourd'hui, parmi les plus grands établis des Chachamim sont les Chassidim. C'est fini tout ça. Bon, alors il est resté, si vous voulez, toute un style de vie mitnaged, un style de vie chassid. Il y a encore, si j'ose dire, des mitnagdim comme ça, absolument coupés de tout sourire, de tout. Cette espèce de rigidité. Vous voyez à peu près quel type humain je désigne. C'est très germanique, lituanien, etc. Enfin, vous voyez à peu près ce genre de type. Et il y a encore des chassidim comme ça qui passeront des journées entières à s'enivrer de chants et aussi de vodka d'ailleurs, et avec le cola kavod, vous savez, kavod vodka. Et puis l'étude, quoi, on a chanté. Mais c'est des limites. En fait, les mitnagdim aujourd'hui font sous la clichite en chantant des chants chassidim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était il y a trois générations d'une hérésie qui est piquée. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, il y a des chassidim qui étudient la Gemara technique. Vous comprenez un peu cette compensation de.
Mais juste une question.
Je vais donner un petit exemple. Il m'arrive souvent d'avoir à orienter des juifs qui viennent me voir dans leurs études. Alors, parfois, j'envoie quelqu'un dans une yeshiva racine et j'envoie quelqu'un d'autre dans une yeshiva mitnagé. Et jamais les gens ne comprennent pas. Pourquoi je suis là-bas? C'est pour ça, il n'y a pas de mystère. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui a besoin de la rigueur mitnagé, il faut qu'il étudie chez le mitnagé. Celui qui a besoin de la joie racine, parce que c'est ça qui lui manque, il faut qu'il étudie chez le racine. C'est pas plus compliqué. Vous comprenez? Et il ne faut pas se tromper de chapelle. De chapelle. Qu'est-ce que vous voulez demander?
Oui, justement,
cette vérité, vous avez qu'à continuer dans la lignée chassidique qui est devenue
un
Talmid Chacham. Comment concilie-t-il cet enseignement-ci qui lui interdit d'avoir la bouche pleine de joie et l'enseignement chassidique qui lui enseigne justement que la vie n'est que joie?
Alors voilà, je vais vous raconter un chouchan chassid. Il y a le rabbi et le chassidim, mais ils sont d'ailleurs assis par ordre de degré de, autour du rabbi, par ordre de degré de chassidout et de valeur. Et alors, si un jour vous assistez à cela, vous verrez, tout le monde chante, danse, gesticule, trinque, etc. Mais, si vous voulez, il y a des nuances à partir du rabbi jusqu'au bas de la table. Le rabbi est beaucoup moins agité, et puis ça s'agite de plus en plus. C'est-à-dire, c'est des niveaux de compétences. Plus on est un mitraha, mais plus cette unité d'équilibre se fait. Alors, vous avez des racines plus, et des racines moins, et puis vous avez des racines. C'est vrai. T'as compris ce que je veux dire ? Vous verrez, il faut aller voir, il faut assister un vendredi soir dans une cour d'un rabbi chassid à Jérusalem, il faut aller voir. C'est bon. Et alors vous verrez que le rabbi lui-même est beaucoup plus digne que dans sa gesticulation chassid, que l'exorciste. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire. L'acquisition du Talmid Chacham permet de faire. Il n'en reste pas moins qui donne la permission absolue à ses chassidim, par exemple le jour de Purim, de s'échevelé. Et puis il faut revenir après à la mort. Alors que ça indignerait un mitnaguet de voir un juif comme ça, chassid, pratiquer sa prière. Il faut comprendre qu'il y a des degrés, mais que le clip, en haut, si vous voulez, le chef des mitnaglim et le chef des chassidim, on pourrait les confondre, c'est le même. Petite nuance. C'est en bas que c'est très différent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais les maîtres sont très proches. C'est en bas que ça se. Vous comprenez ? On raconte des histoires comme ça. Le Gaon de Vilna et le Baal HaTanya étaient vraiment les deux opposés. Un mitnaguet et l'autre racine. Et que, quand ils sont arrivés en haut, chacun a demandé à quelle place je m'assois. Et bien, ils se sont trouvés assis à côté. Mais le couleur. Bon. Alors, demain, vous avez cours à quelle heure ? Bien, alors au grand germe.
Manito d'inim.
Étymologiquement, ce mot de cachère n'a rien à voir avec la vie. C'est un terme qui signifie ce qui est propre à. Par exemple, nous disons en français propre à être mangé, art à être mangé. Voilà, consommation vivante. Le cachère, la harida. Ensuite, la harida est tombée, cachère à manger, et on a gardé cachère. D'abord, un principe très général que je voudrais qu'on comprenne bien. Hier, par rapport à ce problème de la signification du délivrant, que ce soit une mitzvah positive, quelque chose qui est à faire, que ce soit une mitzvah interdite, quelque chose qui est réunie dans le calcul, quelque chose qui est interdit. Le problème de la signification des mitzvahs, il y a une différence de nature dans le rapport à ce problème entre la Torah chez Bichtav et la Torah chez Bahar. Vous avez une sortie de la sa porte ouverte et si je veux dire. L'armée ennemie arrive, c'est pas grave. Quelqu'un, Allaha, d'armée. Zenifra, je voudrais vous expliquer ça, parce que c'est un des problèmes de la kashrut. J'ai, en particulier pour la kashrut, si c'était déjà dans la maison. Tu l'as dit, mais c'est la porte ouverte.
Oui.
Voilà le problème. Là, l'abord de ce problème, dans très général, quelle que soit la nature de la lumière, la lumière morale, religieuse, spirituelle, etc., et puis si tu es le niveau de la Kashrut, dans la catégorie des niveaux de la Torah, vous avez surpris, tout ça comprend. La mort de la Torah chez Birtav, c'est la Torah chez Birtav, c'est formule pour l'homme de bonne foi. C'est-à-dire, elle prend comme postulat que celui qui va se renseigner de la Torah est de bonne foi. Tandis que la Torah chez Birtav tient compte de la psychologie de l'homme, c'est-à-dire qu'il peut être de mauvaise foi. Est-ce que c'est clair, quoi ? J'ai compris le principe. J'entends pas si vous avez compris ce que j'ai dit. La manière dont une loi est formulée dans la Torah chez Birtav est que celui qui étudie cela n'a pas l'intention de tricher. Il veut savoir comment il comprend. Et il est de bonne foi à tout le monde. Tandis que la législation pratique établie par la Torah chez Birtav, elle tient compte du fait que celui à qui elle s'adresse peut être de mauvaise foi. Par exemple, au niveau de la Torah chez Birtav, eh bien, lorsqu'il y a une transaction commerciale, c'est la parole donnée qui fait foi. Devant les gens. Au niveau de la Torah chez Birtav, on va établir qu'il faut un texte écrit. Pourquoi la différence ? Parce que la Torah chez Birtav ne se formule que pour celui qui est de bonne foi, elle s'adresse au Tzadikim. Tandis que la Torah chez Birtav tient compte de la société comme elle est, qu'il peut y avoir des gens de mauvaise foi, donc il faut prévenir la mauvaise foi. Et je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le danger dans la transmission d'une tradition, d'ouvrir un piège à l'avance à quelqu'un qui risquerait de ne pas être de bonne foi. Vous voyez le problème ? Bon. Alors, Marchivier, ça a joué sur ce point. Les mises-bottes nous sont transmises sans leur raison. Ça ne veut pas dire que l'étude des raisons des mises-bottes, des tarmes des mises-bottes, tarmes, ça veut dire le sens. La vérité n'existe pas, mais elle a été séparée de l'étude de la halakha en tant qu'application de la mise. C'est le principe suivant. Et c'est vrai tant au niveau de la Torah chez M. Gustave qu'au niveau de la Torah chez Marchivier. C'est le principe suivant. De telle sorte de ne pas mener l'homme qui risquerait d'être de bonne foi, mais vous savez que la personne humaine est une synthèse très paradoxale. L'homme est à la fois un complexe de tendances bonnes et mauvaises. Même lorsque la dominance est bonne, il y a un point sur lequel c'est tombé. Ou inversement. Vous voyez, ne vous étonnez jamais du paradoxe que peut représenter la synthèse d'une personne humaine. C'est très paradoxal d'une personne humaine. Comment est-ce que vous dites ? Il faut donc tenir compte de toutes les tendances éventuelles possibles. C'est clair. Et alors, quelqu'un qui, grosso modo, serait de bonne foi, mais sur un point précis, il est entêté. Ça lui passe pas. Il ne perçoit pas, ou il ne peut pas percevoir. Alors on risquerait de le mettre devant un piège, de lui ouvrir un piège inutile. Et je pense bien comprendre ce que j'essaie d'expliquer là. Alors, on veut éviter que quelqu'un n'ait un jour l'idée de se dire « Ah, c'est ça la raison, mais elle ne me concerne pas. » Et il tombe dans le piège. Vous comprenez ? Et alors donc, éviter au maximum, lorsque vous donnez une explication, de donner une explication à un niveau plus inférieur où se trouve déjà, dans son évolution culturelle ou spirituelle ou intellectuelle, celui à qui vous parlez. Et en général, on transmettait le niveau d'explication d'un niveau plus haut que celui qui... À qui on s'adresse. Est-ce que c'est clair ? J'ai bien compris l'idée que vous l'expliquez là. Par exemple, la raison pour laquelle un tel doit pratiquer cette mitzvah, vu son niveau de développement culturel, spirituel, intellectuel, c'est son maître qui la connaît. Lui, il ne connaît que la raison pour laquelle quelqu'un d'inférieur à lui doit pratiquer la même mitzvah. Vous comprenez ? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair ? C'est la raison pour laquelle. Traditionnellement, depuis très longtemps, on demande le préalable de la bonne foi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que si on donne une explication, mais qu'elle n'est pas au niveau qui concerne réellement le fait qu'un tel doit pratiquer, enfin tout le monde doit pratiquer les mêmes choses, mais chacun à son niveau a un taram de plus en plus élevé. Par exemple, un gamin, eh bien, qui sait qu'il ira au lit à l'heure et qu'il se réveillera à l'heure, parce qu'il aura un moyen, c'est ça le taram, il aura un moyen. Un peu plus âgé, eh bien, parce qu'il faut faire plaisir aux parents. Un peu plus âgé, parce qu'il faut. Un peu plus âgé, pour la raison pour laquelle il faut. Oui, ce sont des tarams très différents. Vous vous rendez compte. Est-ce que c'est clair? Que par exemple, un ami dit ceci à propos des tarams des autres, on donne aux bébés la nourriture des bébés, et on donne aux adultes la nourriture des adultes. Voilà son explication. C'est-à-dire qu'un bébé, on lui donne un bistec, on lui donne un biberon. Mais un adulte, on lui donne un biberon, on lui donne un bistec. Vous voyez pourquoi la transmission de la signification des choses est subjective, elle dépend du niveau de chacun, et surtout de son niveau culturel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors ne vous amusez pas à dire juifs intelligents des explications bêtes. Enfin, pas bêtes, infantiles, plates. Vous voyez ? Quelqu'un qui a fait un peu de biologie, vous lui dites que la casse-coute c'est l'hygiène, il a un sourire respectueux. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autant plus que c'est lui qui a raison. Imaginez que Moshe Rabbeinu, c'était un pasteur avant. D'abord, c'était un pasteur, un bon pasteur. Un pasteur avant. Alors, c'est pas ça. Comme par exemple dans les problèmes de philosophie, on nous montre Moshe Rabbeinu comme un Socrate avant la lettre. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. C'est un prophète qui révèle la volonté du Créateur pour la conduite humaine. Rien à voir avec des niveaux d'explication qu'on pourrait donner pour elle. D'autant plus que, deuxième principe, ça vous verrez. Non, parce que je sais qu'il existe des livres, et il y en a même qui sont traduits en français, des livres qui sont écrits en allemand et en anglais sur ces problèmes, le sens des mots, tout cela. Et ça suit des modes. Comprenez? Lorsque la mode culturelle est alienne, alors tout c'est lié. Lorsque la mode culturelle est un existentialisme, tout c'est existentialisme. Vous avez remarqué? Lorsque la mode culturelle, c'est je ne sais pas quoi, nous sommes tous des socialistes. Et lorsque la mode culturelle est, c'est, bon, vous comprenez le problème. Donc c'est un chapitre très délicat. Les tarmenes. En fin de compte, je vais le présenter, on peut comprendre les tarmenes des autres que quand on étudie la Kabbalah. Mais je reviens sur le principe, il y a un ordre. Il y a la transmission de l'enseignement de la Havatha comme telle, comment ça fonctionne, la pratique du Mitzvah. Okay. Et lorsqu'on étudie la Havatha comme telle, il ne faut pas s'étonner que ça va jusqu'à des détails infimes, et que le détail infime ne porte pas du tout seul le sens global de l'ensemble de la Mitzvah à première vue. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors cette fois, je vais me borner pour ces premières études à vous donner le sens général de chaque loi. Comment ça fonctionne dans le détail, vous l'aurez des exemples, pour que vous voyez que ça existe. Mais ce sont des études très spécialisées. Okay. Mais voilà pourquoi. Il y a d'abord une raison d'ordre morale et pédagogique pour laquelle ça a pu vous étonner que dans les familles qui sont restées traditionnalistes, la pratique juive s'est transmise apparemment sans sa signification culturelle. Vous comprenez ce que je veux dire? La coutume est comme ça, c'est comme ça qu'on fait. J'ai vu ma main. Je vais vous dire, au niveau de la pratique, je vais dire à quel point, je me rappelle encore une scène qui reste dans ma mémoire. Un jour, mon père, qui était le rabbin de la ville, avait une décision à prendre sur un petit point de savoir si tel ou tel aspect d'un organe, d'un poulet était caché ou pas. Il est venu chez moi, il a demandé à ma mère, tu ne te rappelles pas comment ton père disait quand tu avais lui demandé. Vous savez, ce sont des choses pratiques qui se transmettent dans la vie. Ils se transmettent dans l'histoire, pas dans les livres. Vous voyez, on fait une blague dans les chinois, où ils étudiaient les maladies du gésier, de l'estomac, Korkeval, en hébreu. Et puis un jour, le machia, enfin, celui qui faisait répéter la leçon, s'est aperçu que le barbouille vous parlait de quelque chose qui n'avait jamais vu. Il n'avait jamais eu un estomac de vache, hein, tout simplement. Et alors, un jour, il est arrivé gravement en leur apportant un paquet, il a ouvert le paquet, il a dit, voilà les courquebonnes à cadeaux que nos maîtres nous ont parlé. C'est bien, ça. Alors, revenons à notre problème. C'est-à-dire qu'il y a cette difficulté, et en particulier, dans un domaine de comportement religieux, que je vais vous mettre entre guillemets, parce que je vais vous redéfinir cela, comme celui de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que des traditions, dont la nôtre, mais la Torah militaire de manière très précise là-dessus, ont, au nom de leur tradition religieuse, des manières de manger et des manières de ne pas manger. Des choses qu'elles mangent et des choses qu'elles ne mangent pas. Vous voyez qu'on risque de projeter sur ce comportement des quantités d'hypothèses d'explications qui n'ont qu'une base. Parce que, on sait que premièrement, on ne sait pas de quoi il s'agit. On sait comment ça se fait, on sait comment ça fonctionne, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et deuxièmement, on suit la mode du temps. Et alors, par exemple, les lois de la cache-croûte, la tarte à la crème, si j'ose dire, il y a des tartes à la crème. La tarte à la crème, c'est l'hygiène. C'est pas faux, mais c'est pas ça. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un mange sa chair, il ne peut pas ne pas manger selon les règles de l'hygiène. Mais une nourriture cachère, si on viole les règles de l'hygiène, elle peut tourner et devenir de l'hygiène. Vous voyez, les critères ne se recouvrent pas. Est-ce que c'est clair? Bon. Je vais donner un petit exemple de détail. On va apprendre que le sang est interdit, sauf le sang des poissons. Le sang des poissons est permis. Enfin, le sang des poissons cachères, le sang des poissons cachères est permis. Alors, vous allez demander ça à quelqu'un qui n'est pas au courant de la vraie raison. Il va vous demander une histoire de vie. Parce qu'il va tout simplement les inventer. Il va les inventer, les petits rois rayons, d'après le fonctionnement de son intelligence par le niveau culturel de la mode. Alors qu'il y a une raison très, très précise, très particulière de discuter cet exemple que je vais citer. Qui est radicalement différente de tout cela qu'on pourrait supposer penser. Seulement, le sang des poissons est quand même interdit. Et là, nous avons un principe, c'est permis au niveau de la Torah chez les rabbins. Les rabbins interdisent pour pas qu'on risque de s'habituer à manger du sang qui ne serait pas du sang de poisson. Et alors, vous pourrez lire des textes qui vont vous dire jusque-là, parce qu'il a la même couleur que le sang. Et ne croyez pas que ça n'a pas de sens. Parce qu'il a la même couleur que le sang de la viande, que le sang des mammifères. Mais, par exemple, vous prenez un poisson robuste, je ne sais pas moi, une grosse carpe à la vie, le sang d'une carpe sur une assiette peut ressembler à un sang de mammifère. Alors, vous pouvez entendre ça, que, parce qu'il a la même couleur que le sang de. Déjà, il y a une interdiction de se nourrir de couleurs sanguines. Je vous disais, je vais vous comprendre dans quel sens ça va. Hein. Ça veut dire que, bien que cette explication n'a aucun sens apparemment, elle est vraie. Mais il faut comprendre quel est le principe profond qu'il y a à la base de toutes ces lois, globalement et en général. C'est-à-dire ce fait. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah nous suggère sur la manière de manger hein. Vous voyez, cette expression, que le judaïsme est une affaire de casserole. Hein. Alors qu'est-ce que, oui, le judaïsme est une affaire de casserole. Là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est une affaire de casserole et de drap, si je veux. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et en question. Alors, bon, je reviens au problème. Par exemple, si vous vous écoutez maintenant, c'est le petit point du champ de poisson, je vous dis. Alors, nous verrons que celui qui appelait bâtard, interdit à mélanger à halal, c'est-à-dire ce qui est appelé bassar de la chair, interdit à mélanger au lait, ça c'est une autre loi qu'on verra d'autre part, c'est la chair des espèces permises qui sont. Alors là, les mots scientifiques m'échappent parce que il y a longtemps que j'ai appris ces choses-là, j'ai des mots scientifiques précis en français, mais j'ai écrit de quoi il s'agit. Ce sont les animaux qui pondent un œuf individualisé, où il y a individualisation de chaque individu. Comment on appelle ça? On y va, très bien. Alors que si vous voyez, les poissons ont des poches d'œufs indifférenciées. C'est-à-dire que dans le règne des poissons, l'individualisation de l'individu n'est pas arrivée au seuil qui est arrivée, par exemple, chez les mammifères. Il n'y a pas d'individualisation. Or, nous apprenons que c'est le sang qui est le véhicule de cette individuation qui s'appelle le nerf. qui a dans mon âme. Vous voyez, pendant ce temps, il y a une raison simple, et profonde d'ailleurs, je veux dire, qui va très profond dans le problème. Une raison simple qui ressort de la signification générale de l'Ouattara et qui va jusque dans les détails. Par exemple, dans une bête pure, certaines graisses sont interdites et d'autres permises. Les graisses ou le processus d'individuation de l'individu spécifique de chaque animal dans son espèce n'est pas réalisé, la graisse est permise. Alors que là où il y a déjà individuation réalisée de ce que les savants avaient reçu, l'indice de sa signification graisse. Et vous savez que même actuellement dans la foule, on utilise ces méthodes-là, on peut retenir, on peut diagnostiquer une personne d'après ses traces de sueur. Ça va plus loin des enfants de l'humanité, parce que chaque individu a un indice très spécial de combinaison de ses cellules virologiques, et en particulier cet indice de sa codification des graisses. Et alors, les graisses de déchets qui s'attachent aux organes du système digestif sont interdites, et les graisses qui s'attachent à la muscle sont permises. Elles ont un nom différent en hébreu. Okay. Et il faut savoir où ça se trouve, ça. Alors, ça nous renvoie donc à l'idée d'une science biologique colossale qui est préalable à l'étude de ces lois dans la Torah. Mais ça ne vient pas d'une médecine vivienne. Je vais essayer aujourd'hui déjà de faire un peu découvrir quel est le principe dont il s'agit. C'est-à-dire que derrière cette Torah, il y a une science positive qui donne le vertige par rapport au niveau de la science moderne. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des savants qui ont fait ces lois. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est clair? Des savants du type des savants contemporains. Bon, voilà par exemple cet exemple très précis, pourquoi nous aurons cette anomalie apparente, le sang du poisson est permis du point de vue de la Torah, parce que ce n'est pas bassard, ok? Mais c'est interdit par les rabbins pour des raisons dérivées, pour des raisons de d'autres principes connaître. Je vais être un peu complet. Premièrement, pourquoi qu'on s'habitue à devenir jugeur de sang, et ça va dans un sens psychologique très clair, ok? Deuxièmement, et ça va très profondément dans l'inconscient, pour pas que la couleur de l'assassinat fasse partie du processus de la nourriture, la couleur du sang. Et vous voyez, c'est à des niveaux différents, mais ça va toujours dans la même chose. Alors qu'en termes de substance, ce sang-là ne véhicule pas du tout, ce qui est interdit dans le sang des mammifères. C'est-à-dire, les caractéristiques hormonales spécifiques de la personne de chaque individu. C'est ça qui est appelé tabou. Ce qui est déjà devenu est un. Ce qui est en devenir est un. Donc, l'encouragement de ces critères que vous pouvez aller vous. Et troisième raison, Michoud Maratari. Ça, je vais vous mettre au tableau, l'expression, parce qu'elle est importante pour plus les lignes. Mishum Marat Arbon.